C'est génial.
Sur la première.
Contrairement à la drogue, Trainspotting, c'est génial. Vous avez du mal à me croire ? Attendez de découvrir la suite.
Carte d'identité. Titre.
Trainspotting.
Signification.
Désigne l'activité consistant à regarder les trains. Métaphoriquement, c'est une allusion au trou dans la peau qui forme autant de gares où passent les seringues.
Genre.
Tragicomédie anticonformiste.
Réalisateur.
Danny Boyle.
Date de sortie.
1996.
Signe caractéristique.
Film culte qui a redonné un coup de fouet au cinéma britannique.
Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television.
Un monologue en voix off qui égratigne l'hypocrisie du conformisme social et qui plonge directement le spectateur dans un mélange d'urgence, de frénésie et d'excitation rythmé par le célèbre Lust for Life d'Iggy Pop.
Choose good health, low cholesterol and dental insurance.
En une scène d'intro entrée dans la légende, le réalisateur Danny Boyle annonce la couleur de son deuxième long métrage avec une maestria presque insolente. Bienvenue à Édimbourg, capitale de l'Écosse. Faites la connaissance de Sick Boy, Spud, Begbie, Tommy et Mark Renton, le narrateur désabusé et principal guide de ce city trip halluciné. En cette fin de XXe siècle, la situation économique déplorable conditionne la jeunesse gaélique à l'ennui le plus terrible. Le chômage est la seule perspective professionnelle en vue. Seul échappatoire dans ce quotidien sans espoir, la fuite en avant dans les substances psychotropes. L'héroïne est l'activité fétiche de cette bande de bras cassés et troués.
I chose not to choose life. I chose something else. And the reasons? There are no reasons. Who needs reasons when you've got heroin?
Mark Renton, lui, est plus que lucide sur sa situation et il est bien déterminé à y mettre un terme.
Plus jamais, j'arrête les conneries.
Sérieux?
Ouais, c'est terminé, je décroche.
C'est toi qui vois, man.
Je déconne pas, cette fois c'est décidé, j'arrête pour de bon.
Oh, ça sera pas la première fois.
Mais le chemin vers le sevrage est semé d'embûches.
Il va te falloir un dernier fixe.
Non, je crois que non.
La nuit va être longue.
Trainspotting, c'est à l'origine un roman d'Irvine Welsh, publié en 1993. L'auteur écossais accepte le projet d'adaptation à condition de ne pas transformer son best-seller en drame social. Ça tombe bien, ça n'est pas du tout l'intention du scénariste John Hodge et du réalisateur Danny Boyle.
We didn't want to do that. We wanted to take a different option because the book is brighter than that to read. It's more enjoyable. It isn't a depressing experience and we didn't want the film to be a realistic depressing experience.
Le duo vient de signer une comédie noire qui a été un grand succès au Royaume-Uni, Petit meurtre entre amis, avec un jeune acteur nommé Ewan McGregor.
Hello there.
Ils poursuivent l'aventure avec ce talent fraîchement découvert dans une veine tout aussi déjantée, provocante et surprenante. Trainspotting ne vante pas les mérites récréatifs de la drogue. Ce n'est pas non plus un tract à charge sur les dangers des stupéfiants.
Ouf ! C'est un fléau !
Cette approche peu conventionnelle, sans jugement moral, est héritée du roman. Le portrait nuancé d'un groupe d'amis toxicomanes est magnifié par la mise en scène flamboyante de son jeune cinéaste. Danny Boyle développe ici ce qui deviendra sa marque de fabrique. Un style très visuel, souvent exubérant et soutenu par un montage nerveux. Il crée des moments surréalistes pour restituer l'euphorie des tripes à l'image de la scène mythique dans les pires toilettes d'Écosse. Tout comme il sait brutalement illustrer l'angoisse de la descente. Il entraîne alors le spectateur dans une réalité cruelle et étouffante, à la limite du soutenable.
I think Allison had been screaming all day. But it hadn't really registered before.
Trainspotting n'est pas le récit d'une longue et impitoyable chute. C'est un voyage sensoriel et émotionnel, une fable teintée d'onirisme, soutenue par une bande-son prodigieuse qui rassemble dans une même playlist des standards du rock, de la musique électro et des artistes de la scène Britpop comme Blur et Pulp. Le film sort dans les salles de cinéma en 1996 et il est vécu comme une bouffée d'air frais. Un succès critique et public qui permet de révéler une nouvelle génération d'acteurs comme Johnny Lee Miller, Robert Carlyle, Kelly MacDonald et évidemment Ewan McGregor qui tire son épingle du jeu sous les traits de Mark Renton. Personnage ambigu, anti-héros à la fois pathétique et volontaire, laissé pour compte cynique mais attachant, il symbolise les sentiments contrastés que provoque le film quelque part entre l'effroi et l'admiration, entre le comique et le tragique. « Trainspotting a plus de 25 ans, mais sa modernité ravageuse frappe encore. Le film n'a rien perdu de son pouvoir de subversion et il vous garantit toujours une expérience intense, sublime, trash et inoubliable pendant une heure et demie. Et ça, c'est génial. Mais n'oubliez pas,
la drogue, c'est dangereux pour la santé.
Et du François de Brigode remixé avec du Born Sleepy, ça aussi, c'est génial. En attendant, nous allons revisiter ce film, ce classique du cinéma british et subversif pour rimer avec nos invités. Parmi nos invités, nous avons Élise Lénard. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste pour le groupe L'Avenir, vous êtes journaliste culturel et lifestyle, et nous retrouvons à Paris Benjamin Durand. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes le cofondateur du magazine Vox Pop, vous avez aussi vécu 10 ans en Angleterre, essentiellement à Manchester, et puis vous êtes aussi l'auteur du livre Oasis ou la revanche des ploucs dont nous allons célébrer effectivement l'avènement avec ce film. Ma première question, elle est toute simple. Pour vous, pourquoi Trainspotting est génial, Benjamin ?
Parce que c'est un petit peu, ça arrive vraiment au moment de, où la Britpop, ou ce qu'on a pu appeler aussi la Cool Britannia, déferle un petit peu sur le monde, devient l'intérêt des États-Unis. Et évidemment, l'arrivée d'un film aussi populaire, vraiment fait sur l'Angleterre par du personnel britannique et qui se propulse au niveau des projecteurs d'Hollywood, c'est vraiment cet événement-là. Et c'est vraiment un des symboles de cette euphorie complètement parallèle de, à ce moment-là, la rivalité entre Blur et Oasis et le concert mythique d'Oasis à Nebworth qui se produit la même année. Et c'est quelque part, pour en revenir à cette idée de revanche des ploucs, le film montre un petit peu tout ce tissu social de cette misère thatchérienne qui arrive à un point de rupture pour se célébrer et déboucher sur l'arrivée au pouvoir du Labour de Tony Blair ensuite qui va fermer cette très longue parenthèse conservatrice et thatchérienne.
Effectivement. Élise, pour vous, pourquoi ce film est génial ?
C'est Danny Boyle déjà, voilà son deuxième film. Je trouve que on ressent vraiment toute l'énergie de ce réalisateur. Il y a des trucs, il y a des scènes qui restent gravées en tête. Moi, voilà, je l'ai vu il y a déjà un petit temps. J'ai revu maintenant. Il y a des scènes qui étaient restées, comme la fameuse séquence où il plonge dans les toilettes. Ces toilettes sont affreuses, mais c'est visuellement c'est très recherché. C'est très dynamique. C'est un film qui parle d'un sujet très un sujet grave, mais en même temps, ça parle aussi de la vie, ça parle d'un groupe de potes. On ne sait pas qu'on a envie vraiment de faire partie de ce groupe, parce que bon, il y a un petit peu un côté d'échéance et c'est difficile ce qu'ils vivent. Mais voilà, grâce à la bande-son, grâce à l'énergie des acteurs et de la mise en scène, voilà, c'est un film qui...
On a envie de les câliner, ces potes, on a envie de leur dire « arrêtez ça, on sait que c'est pas bien, on sait arrêter la drogue et venez avec nous, on va boire des coups et on va s'amuser autrement ». En attendant, ce film, effectivement, Trainspotting, un film subversif sur les ravages de la drogue, sur l'ennui d'une jeunesse abandonnée, c'est important, sur une sorte de no-futur pour cette jeunesse qui n'en veut pas. Et pourtant, malgré ces thèmes sombres, malgré ces thèmes pathétiques, ce film, il est enlevé, il est dynamique, il est drôle, même si parfois on rit parce que on regrette d'avoir ri parce que la scène suivante, elle est terriblement glauque. Benjamin, en quoi ce film, comme vous le disiez, il reflète bien ces années post-thatchériennes, mais aussi ce nouveau siècle qui pointe le bout de son nez, qui nous fait peur, les années sida, tout cela inquiète et pourtant on essaye de relativiser à travers Trainspotting.
Oui, parce que encore une fois, quand on sort d'une période aussi longue où toute une frange ouvrière de la société a la pleine conscience que dans la société mise en valeur par le pouvoir politique, il n'y a pas de place pour eux. Du coup, ils s'enfoncent dans cette régression liée aux drogues. Et aussi, ça m'a frappé là quand j'ai revu le film pour être parfaitement au point pour ce matin. Ils s'enfoncent aussi dans cette dans cette camaraderie masculine hyper nocive. Oui. C'est vrai qu'on les voit assez peu. Les femmes sont très très périphériques dans ce film, et ça, et c'est quelque chose, quand on vit en Angleterre, on sent que les groupes de garçons comme ça sont très très c'est quelque chose de très très fort. Donc ce qui est intéressant, c'est que le livre de Irvine Welsh à la base parlait des années 80, et donc du début quelque part de cette période où le bout du chemin n'était pas là. Et quelque part, le film est intéressant dans le sens que le film montre que cet enracinement dans la déprime va toucher à sa fin, et on sent quand même aussi au niveau du switch musical entre les trucs de rock un petit peu drogués et ensuite tout le côté dance music, etc., que là aussi la porte s'ouvre vers quelque chose d'autre. Donc quelque part, je pense que le film apporte un petit peu de lumière au final, et ça permet d'accepter l'euphorie malgré le côté glauque.
Ouais, alors l'une des forces de ce film, c'est son casting, avec celui qui est devenu aujourd'hui un incontournable, hein, à la fois dans les blockbusters et dans le film de genre, parce que c'est ça aussi la réussite de la filmographie d'Ewan McGregor, bien entendu, qui cartonne en télévision avec la série, enfin en télévision sur un écran beaucoup plus petit, avec la série Obi-Wan, mais aussi il reste excellent dans des films moins connus. Moi, je vous conseille Perfect Sense avec Eva Green. Élise, en quoi c'est la révélation de ce film, Ewan McGregor, pour vous?
Déjà, on découvre son sourire. Je trouve qu'il a un sourire extrêmement communicatif. C'est quelqu'un... Il a ce côté un peu frêle dans le film, parce qu'il a son petit pantalon très moulant, comme ça. Mais en même temps, c'est un acteur qui reste solaire. Je pense que dans tous ses rôles, il a gardé ce côté-là. On l'a vu après dans Moulin Rouge. Il a tourné énormément. Le rôle d'Obi-Wan, bien sûr. Ça reste, c'est un acteur qui est directement sympathique, je trouve, ouais. et qui sait jouer des scènes plus profondes, et comme on disait, on a envie de le câliner.
Ah, ça c'est clair. Alors s'il y a Mark Renton, ça c'est j'allais dire Obi-Wan, non, c'est Ewan McGregor d'un côté. Il y a l'autre, son opposé, c'est Begbie, c'est le fameux Robert Carlyle. Alors lui, c'est intéressant parce que c'est le plus âgé de la bande, et c'est quand même un acteur assez expérimenté, parce qu'il a d'abord tourné pour Ken Loach, et là il débarque pour Danny Boyle. Benjamin, pour vous, en quoi ce casting il est parfait, en quoi il représente bien cette jeunesse, cette Angleterre de cette époque-là, même si, vous nous l'avez dit, il y a une différence entre le livre et le film. Le livre, c'est les années 80, le film, c'est les années 90.
Je suis désolé de corriger, mais nous parlons de l'Écosse aussi. Il arrive assez bien, effectivement, à voir les petits écarts de génération qui font beaucoup de différence et qui montrent un petit peu l'enfermement. Effectivement, ce qui est très intéressant, c'est de se remémorer et de revoir le marketing de l'époque, qui était justement extrêmement basé sur les têtes, les portraits des acteurs et des personnages. Effectivement, le marketing avait réussi à glorifier ces junkies, comme un petit peu des pop stars. On pouvait les mettre en poster dans sa chambre, comme on pouvait mettre les posters de Damon Albarn ou de Liam Gallagher. Et c'est ça, c'est vraiment cette même génération-là. Et d'ailleurs, tous ces gens-là sont des gens qui, à l'époque, sortent ensemble dans les mêmes soirées à Londres. Donc c'est vraiment une espèce d'apogée de cette génération qui, évidemment pas de la même manière que les personnages du film, mais qui sont là pour vraiment incarner une vague nouvelle qui va tourner la page de ce que l'Angleterre venait de vivre.
Ouais, et c'est là qu'on pourrait lier et Trainspotting et votre livre avec ce titre qui est juste magnifique, Trainspotting, la revanche des ploucs. Et là, on mixe les deux. Un mot sur Danny Boyle avec vous, Élise. Vous nous l'avez dit, hein, c'est l'une des merveilleuse trouvaille, c'est l'un des coups de génie de ce film, c'est sa réalisation, avec une réalisation très dynamique, voire vidéoclipesque, parce que c'est ce qu'il nous propose en fait, il nous propose un vidéoclip différentes musiques. Hein. On en parlera d'ici quelques secondes de ces musiques. C'est vraiment ça, hyper dynamique, hyper enlevé, pour quand même quelque chose de très dur, de très glauque, de très profond.
Mmh, oui, tout à fait. Mais voilà, Danny Boyle, c'est lui, celui qui a fait Slumdog Millionaire, qui parlera peut-être à plus de monde. Il a toujours ce côté où on va avoir des... Je me souviens, enfin, il y a cette séquence où on présente le menu de drogue. Voilà, ça reste difficile, mais ça reste, voilà, il introduit des petites choses un peu rigolotes pour dédramatiser chaque fois, désamorcer toutes ces séquences. À côté de ça, moi, une séquence qui m'a marqué, c'est le moment du sevrage où, voilà, il arrive visuellement à créer ce sentiment. On a l'impression que nous aussi, on est en plein bad et qu'on va pas s'en sortir. Donc, il y a plein de choses comme ça de Danny Boyle qu'on retrouve déjà dans son deuxième film. C'est quand même pas mal.
Oui, de belles idées. Et il nous fait peur avec son papier peint.
Oui.
Enfin, le papier peint de la chambre de Mark Anton. Pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui aimeraient revoir ce film, Trainspotting, la bande-son. Parlons enfin de cette bande-son. C'est peut-être la trouvaille, c'est peut-être le véritable coup de génie de ce film. À la fois électro, rock, très éclectique. En quoi, Benjamin Durand, en quoi cette bande-son, elle colle parfaitement à ces années-là, à cette jeunesse, tant celle montrée que celle qui la regarde en salle?
Ben parce que elle réunit en gros effectivement, il y a deux icônes absolues de cette culture à la fois très ultra sensible des fanatiques de musique, mais aussi très liée à l'expérience de la drogue que sont Iggy Pop et Lou Reed. Et d'ailleurs, la présence dans la bande son de Lust for Life et Perfect Day va vraiment être une façon de complètement faire redécouvrir ces chansons et ces albums mythiques à un autre public et presque donner une seconde vie à ces morceaux. Il y a la Britpop qui est présente et ça évidemment c'est un élément encore une fois nouveau par rapport à l'univers dépeint dans le livre original de Irvine Welsh, et il y avait vraiment une volonté d'inscrire Trainspotting dans ce mouvement-là. Donc, il y a la présence de Pulp et de Blur. Pour l'anecdote, Danny Boyle, qui est de Manchester, avait proposé à Noel Gallagher d'écrire une chanson. Et Noel Gallagher, ne s'intéressant pas beaucoup plus que ça à ce que le film pouvait être, a refusé parce qu'il pensait vraiment que le film était au sujet de Trainspotter et pas du tout au sujet de Désaxé comme ça. Donc, il n'y a pas d'oasis pour cette raison-là. Et puis, il y a effectivement la culture de la rave qui était évidemment très, très importante en Angleterre, mais plus au niveau de l'Angleterre la Grande-Bretagne du Sud, peut-être pas autant qu'en Écosse, mais ça exprime aussi très bien le passage du film quand Mark Renton descend à Londres dans l'immobilier.
Ouais, effectivement, mais est-ce que Noel Gallagher s'intéresse à quelque chose? Ça, c'est une autre question qui
fait... À cette époque-là.
Oui, en tout cas, c'est une question qui fera débat. En attendant, merci beaucoup, Élise, d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à vous, Benjamin, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous rappelle, je rappelle à nos auditeurs votre livre, Oasis ou la revanche des ploucs, il est toujours disponible en librairie. Vous étiez venu dans le mug nous en parler. En attendant... On a évoqué cette musique, on a évoqué ce talent pur et dur. C'est Iggy Pop pour clôturer ce dossier, pour vous expliquer réellement pourquoi Trainspotting, c'est génial. Sur notre petit pick-up à pile, nous retrouvons Iggy Pop et Lust for Life.
La première,
9h-10h,
c'est génial.